Europe 1.
Europe 1.
16h-18h. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe sauvage, l'émission hybride où jadis l'info et l'humour allaient main dans la main sur les chemins de la découverte et qui désormais, confinement oblige, vont main dans la main autour de la table basse du salon. Deux heures de bonne humeur pour vous dégourdir les neurones tout en départageant les meilleurs journalistes d'Europe 1 sous l'égide de celle qui préside à nos soirées télé. Eva Rock, moi je suis sur mon canapé, mais vous êtes en duplex avec nous depuis le studio Coluche.
Toujours.
Décrivez-nous un peu la situation. Vous devez enlever les toiles d'araignée pour pénétrer dans le studio.
Comment vous voulez vraiment que je vous raconte ce que je fais tous les jours?
Dites-nous.
J'ai des petites lingettes javelisées et je nettoie le studio 10 minutes avant d'entrer et de commencer l'émission. Tous les jours,
mais
je le fais.
Vous, plus personne ne va dans ce studio.
Oui, mais quand même, je sais pas, comme j'en sais rien. Parce que
vous avez peur de vous infecter vous-même.
Non, mais pendant la nuit, s'il y a des gens qui s'introduisent.
Des gens qui vont dans le studio pendant la nuit.
Voilà, je nettoie tout. Voilà, c'est ça mon petit geste.
Alors, Eva, vous savez que chaque jour, nos auditeurs vous attendent au tournant. Vous avez de belles choses à proposer ce soir sur les écrans.
Je suis très, très contente aujourd'hui. Vous allez voir.
Ah, vous êtes fière de moi.
Ah, oui, je suis fière.
Je vous sens fière.
Oui, tout à fait.
En attendant, je vous présente nos deux ultimes concurrents du jour. Le premier, fan absolu de musique, a longtemps hésité entre une carrière de journaliste musical et une carrière de chanteur. Il a finalement opté pour journaliste musical et il n'est pas un jour sans que le monde de la musique ne le remercie.
C'est hard, sans toi on est maussade, en jogging, en cuissarde, ta boutou trondouillarde.
Bonjour Fred Goati.
Je suis à la batterie, je ne chante pas.
Vous êtes Fred, le directeur de Jazz Magazine, et comme vous avez la chance d'être confiné autour de milliers de disques, c'est-à-dire chez vous, vous illuminez nos après-midi avec de formidables pépites sonores. Qu'est-ce que vous nous avez déniché aujourd'hui?
Alors, il y a quelques jours sur cette antenne, mon ami et mentor Jean-Philippe Ballas parlait de basique et de valeur refuge à propos de Bruce Springsteen. Il me semble que France Gall et Michel Berger sont aussi des artistes avec lesquels il fait bon vivre.
On est d'accord.
Je pense que vous êtes d'accord. Et comme en ce moment, on ne peut pas aller farfouiller dans les bacs à disques, on se promène sur les plateformes de streaming et oh joie, Chanson pour une fan de Michel Berger et Dancing Disco de France Gall viennent de ressortir dans des éditions Deluxe très spéciales.
Je suis fan de Michel Berger, mais attention quand même Fred, votre rival du jour est un cador, un poids lourd de la rédaction d'Europe 1, et pas seulement au sens propre. Au moment où je constituais ma bande, Mathieu Charrier m'avait dit « Prends-moi, je suis une Lamborghini ». Impressionné, je l'ai pris. Ce n'est que plus tard sur le forum d'Automoto que j'ai découvert que les Lamborghini tombaient souvent en panne.
Comme
a pu le constater Bernard Poirette, chez qui Mathieu officie le week-end.
John McNaught, ancré de réalisme et surtout d'un graphisme.
Ancré de réalisme, 5-4-3-2-1-0.
Mais ce qui est extraordinaire avec John McNaught, c'est son
5-4-3-2-1-0.
Vraiment, il faut plonger dans l'univers de cet auteur.
5-4-3-2-1-0.
Que pas grand monde ne lit, faut bien le dire, malgré sa tournée de dédicace pour son nouveau litre. Mais c'est pas possible.
Et oui, il est performant, mais il se démarre à la manivelle. Bonjour Mathieu Charrier.
Jour et nuit, c'est pas possible ça. Vous faites le gondriole, nous on informe les gens jour et nuit, on est fatigués. Par ailleurs,
moi je me tire sur la nouille, Charrier. Vous êtes Mathieu, le monsieur cinéma d'Europe 1 aujourd'hui. Vous nous donnez des nouvelles du Festival de Cannes.
Et oui, quel avenir pour le Festival de Cannes. On a eu droit mardi à un communiqué, vous savez, bien alambiqué, disant que le festival n'aurait pas lieu dans sa forme habituelle, mais qu'on réfléchit à une nouvelle forme. Bref, je vous dirai les pistes envisagées.
Merci Mathieu. Alors, Michel Berger ou Festival en danger, quel sujet s'avérera le plus intéressant? Nous le saurons juste avant 18h, comme d'habitude. En attendant, c'est l'heure de prendre des nouvelles de votre confinement. Comment ça se passe en ce 31e jour? Vous nous envoyez vos messages directement sur l'adresse mail d'Eva Rock, eva.rock@europe1.fr.
Alors oui, chère équipe sauvage, alors déjà bravo de nous donner la parole. Alors mon problème avec le confinement, c'est qu'on a toujours les enfants derrière notre dos. Il faut toujours faire attention à ce qu'on dit entre adultes. Il faut aussi faire attention aux radios qu'on branche. Allez écouter tranquillement, on de la traconte avec votre fille de 8 ans, c'est difficile. Et là,
on de la traconte.
René lui brise la nuque avant une longue séance de découpe au couteau de cuisine. Et puis la question, c'est est-ce qu'on a été sauvés avec l'offre SVOD de Disney+. C'est vrai que tout a changé, franchement. Sur la tablette, avant, c'était Mickey et ses amis libérés, délivrés en non-stop. Et maintenant, sur la télé, on a Mickey et ses amis libérés, délivrés, mais en haute définition. Enfin bref, si vous attendiez une jolie conclusion du style « c'est super de se rapprocher de ses enfants pendant le confinement », eh bien non, on en a plein le dos des enfants. C'est long, mais il faut le faire. Alors on reste à la maison.
Merci beaucoup. C'était Rémi qui nous avait envoyé ce message la semaine dernière et qu'on remercie énormément. Et alors là, je vous propose de retrouver des nouvelles de la jeune femme qui avait une brosse à joint pour la salle de bain.
Ah, la fameuse.
Voilà, elle a un petit message pour nous et Jean-Marc aussi. Écoutez.
Coucou, alors c'est la dame à la brosse à joint. En fait, j'ai nettoyé ma maison de fond en comble, mon garage, ma cave. J'ai plus rien à faire. Et puis, en plus, je vous ai pas dit, mais je me suis fait larguer pendant le confinement. Alors, du coup, j'essaie d'apprendre l'italien via des chansons d'amour. Je sais pas si c'est très bien pour mon moral.
Salut, la fine équipe de l'équipe et sauvage. C'est Jean-Marc de Charente-Maritime. Durant cette période de confinement, mon cerveau est en branle et une question me turlupine. On le sait maintenant, le déconfinement sera progressif à compter du 11 mai. Peut-on dire alors, mais c'est peut-être précoce de le dire, que nous allons tous vivre ensemble une sorte d'éjaculation sociale? Je retourne à mon confinement. Je vous embrasse.
Vous savez quoi, Eva?
Aussi, oui.
J'avais l'impression d'avoir cet étrange ressenti que mes neurones étaient en train de fondre pendant le confinement. Je vois que c'est un phénomène collectif.
Mais oui, exactement.
Et ça me rassure.
Exactement.
Merci à vous. Et j'attends toujours, en revanche, des messages très intéressants et très drôles. J'attends, en revanche, toujours sur mon Instagram Mathieu Noël très officiel des photos d'Eva Rock dans sa jeunesse pratiquant divers sports. Je suis sûr qu'il y en a et je suis sûr que vous qui nous écoutez, vous en avez. N'hésitez pas à me les envoyer. Merci d'avance.
Europe 1.
On en parlait avec Mathieu Charrier hors antenne. Clairement, ce qui nous manque le plus en ce moment, on peut le dire, Mathieu, c'est troncher.
Oh non, mais
non,
ça
en
va
deux,
pas,
en
non
deux. Assister à des concerts, vivre tous ensemble pour la musique qu'on aime. Non, c'est ça qu'on disait hors antenne,
oh là
Mathieu.
Là.
Alors, on ne sait pas quand ça reviendra, il faudra être patient. Mais en attendant, Fred Goati nous fait vibrer par procuration en nous invitant dans sa fabuleuse discothèque à la découverte aujourd'hui des trésors cachés de Michel Berger. La visite démarre juste après Louis Chédid, tout ce qu'on veut dans la vie sur Europe 1.
Apaiser rien qu'un seul, aussi léger soit-il. À peine le poids d'une feuille, la caresse d'un cil. Écouter battre son cœur et mourir de bonheur. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie, corps à corps, bouche à bouche. Que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Revers de la médaille. Même si ça fait mal, parfois, parfois. Pour un simple je t'aime, être prêt à faire n'importe quoi. Trop aimer, trop s'étreindre. Qui oserait s'en plaindre. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche, tout ce qu'on veut dans la vie. Tout ce qu'on veut dans la vie.
qu'on veut dans la vie. C'était Louis Chédid sur Europe 1. Restez avec nous, on revient dans 25 secondes.
Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
C'est une lettre que j'ai reçue hier par Chronopost. À l'intérieur, un CD et un message de dénonciation signé d'un journaliste qui tient à garder l'anonymat, mais dont le nom commence par chat et finit par billet. En règlement, je cite « L'élimination immédiate de Fred Goati dans l'équipe sauvage au prochain jeu de mots foireux. » Le CD contenant, lui, pour sa part, une sélection des 10 jeux de mots foireux.
Comment dire, on jazz, gratis.
Je crois que vous voulez nous parler aussi d'un autre groupe, Chic, parce qu'il y a aussi un grand concert gratuit de Chic en streaming gratuit.
Chic alors. Aujourd'hui, j'ai eu de la Suisse dans les idées.
Oh là là.
Voilà la lettre, la lettre de dénonciation se terminait par ces mots.
Je me suis dit, je peux plus me taire, ça suffit quoi.
Fred Goati, je tenais à vous en informer afin que vous sachiez très précisément quel genre de
anonyme,
bonhomme.
Cette lettre, je vous rassure.
C'est vrai, elle est anonyme. Mathieu Charrier vous écoute. Mon cher Fred Goati, vous nous parlez aujourd'hui de Michel Berger, ou plutôt des trésors cachés de Michel.
Oui, je vais commencer par vous faire une confidence, Mathieu, même si je ne sais pas si je devrais, mais enfin bon. Alors, je n'en peux plus, je suis en manque. Un mois, rendez-vous compte que je n'ai pas pu rendre visite à mon dealer, à mon disquaire. Oui.
Oh, premier jeu de mots.
Non, c'est pas un jeu de mots.
Mais non.
Mon
disquaire est un peu mon dealer, mais autorisé. Alors, je vais vous faire une confidence. Je rêve de retourner chez mon disquaire favori pour m'acheter, je sais pas, un CD, un vinyle, une nouveauté, une réédition, peu importe. Un disque. Tiens, à ce propos, le marché des rééditions, et notamment des rééditions de luxe, s'est particulièrement développé ces dernières années.
Non, mais Fred, vous n'allez quand même pas nous parler des rééditions de luxe de France Gall et Michel Berger au moment où tous les disquaires sont fermés.
Si, enfin, non. Enfin, je vais vous parler d'une réédition de luxe, mais digitale. Je vous invite à vous rendre sur les plateformes de streaming pour réécouter tout d'abord l'édition de luxe donc, du deuxième album de Michel Berger, Chanson pour une fan, millésime 1974. Alors à cette époque, Michel Berger n'était encore qu'une sorte de, comment dire, d'une douce rumeur pour le grand public, mais déjà un auteur-compositeur et producteur aussi très respecté. Et parmi les chansons rares qui ont été ajoutées à une chanson pour une fan, donc en édition digitale, il y a celle-ci qui s'intitule Le secret.
Elle s'assied près de la porte, et vous regardez.
Évidemment, toute ressemblance avec Let It Be des Beatles
n'est
certainement pas fortuite.
Ouais, ouais. Oh, mais elle est belle, cette
grand
chanson.
Grand fan des Beatles, oh là là. Michel.
Ouais.
Alors, dans le même album, il y avait un morceau très ambitieux, très long, Mon fils rira du rock'n'roll. Et au beau milieu, une voix féminine tombait du ciel. Et c'était la première fois qu'on l'entendait sur un disque de Michel Berger. Ce n'est pas une fée, ce n'est pas Kate Bush. Écoutez bien.
Quand il s'entendra dire je t'aime, il connaîtra la vie. C'est tellement bien. Je saurais lui dire les mots qu'il faudra.
Sa voix ne trompe pas.
Hein. Ah ouais. Immédiatement reconnaissable.
France Gall, ouais. Ouais.
Toute première apparition de France Gall sur un disque de Michel Berger. Alors France Gall était fasciné, on le sait, par les chansons de Michel Berger, qui lui-même s'est rendu compte assez vite que France Gall avait quelque chose de magique dans la voix, de rythmique aussi, d'unique. Alors le premier 33 tours de France Gall, entièrement écrit et composé par Michel Berger, date de 1975. Puis deux ans plus tard, sort Dancing Disco. Alors c'est notre deuxième album du jour, qu'on peut retrouver en édition Deluxe digitale sur vos plateformes de streaming préférées. Et là encore, des morceaux rares ont été ajoutés comme « Une femme, tu sais ». Mais laissez-moi d'abord citer France Gall. Deux points, ouvrez les guillemets. Il ne faut pas oublier que Michel écrivait tous les textes. Il a donc écrit « Je suis une femme, tu sais ». Et ça me fait rire. C'est un message adressé aux hommes qui n'auraient pas bien compris qu'on est leur égal. Sur une rythmique incroyable et des cuivres joyeux. Démonstration.
Les cuivres, ils sont géniaux, là.
Ah ouais, Stevie Wonder, influence Stevie
carrément.
Wonder, ça groove. Moi, je voudrais dire quelque chose, parce que, en France Gall, c'était une jolie blonde, avec une voix au perché et un timbre mutin, et on n'a pas toujours pris au sérieux, justement, à cause de ça. Et ça, vraiment, ça me rend dingue. Parce que France Gall, c'était une chanteuse très, très douée, très technique, et qui swingait vraiment.
Pas qui swingait, Fred, vous n'allez pas nous dire quand même qu'elle aurait pu être chanteuse de jazz, faut pas exagérer.
Si, Si, ah, si. Si, avec sa technique et son swing, France Gall aurait pu faire une carrière à la Staseken,
ah oui,
par exemple. France Gall, ah oui, alors tout à fait. France Gall était, et beaucoup de musiciens le disent, France Gall était musicienne dans l'âme, elle adorait ses musiciens. Tiens, du grand batteur André Secarelli,
un niçois. Bien sûr.
Un niçois, mais pas quand même. Hein. Bah, elle disait qu'il lui permettait de chanter en toute liberté parce que son jeu était, je cite, un mélange de tension et d'énergie gaie. Pas étonnant donc que Michel Berger ait encore une fois trouvé les mots justes. Faisons taire les mélancoliques avec notre propre rythmique et notre joie. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas?
Musique.
Ah, oui. Musique.
Musique, mesdames, messieurs. Une chanson que je rêvais depuis tout petit de lancer sur Europe 1, la radio où je l'ai découverte en 1977.
Faisons taire les mélancoliques avec notre propre rythmique et notre joie.
Voilà, donc pour les gens comme nous tous confinés, il y aura d'autres albums de France Gall et de Michel Berger qui vont ressortir
en édition
Deluxe Digital ces prochaines semaines.
Et peut-être même un duo virtuel avec Eva Rock qu'on a entendu fredonner sur musique. Et beaucoup d'auditeurs nous disent, nous envoient des messages pour nous dire vite, un duo. On veut un
avec
duo
vous.
Virtuel.
Merci. Avec
vous, Mathieu. Fred Poëti, Mathieu Charrier, vous qui êtes aussi mélomane, un mot sur Michel Berger?
C'est pas mal.
Pas l'hommage.
Europe 1.
À suivre, vivre en couple en confinement, c'est pas simple. Alors messieurs, si vous voulez éviter que ce soir devant la télé, parce que vous aurez encore choisi un film pourri, votre femme vous dise
tête de cul.
Oh non.
Ne zappez pas au hasard comme vous faites tout le temps. Suivez plutôt les conseils d'Eva Rock. À tout de suite.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Les premières semaines de confinement, vous arriviez à occuper vos soirées sans trop de difficultés. Netflix, apéro sur Zoom, compétition de Scrabble, que vous aviez récupéré d'ailleurs sous votre friteuse dans la cave. Mais après 4 semaines de soirées Scrabble, le temps commence à être long. Surtout pour celles d'entre vous qui, comme Eva Rock, ont de gros besoins de ce côté-là.
Bon, bah tant pis, j'ai un gaz, j'enlève mon haut.
Non, il n'y a pas de gaz, j'ose pas faire ça.
Ah, mais j'en ai marre, on va quand même faire jouer à Smash toute la soirée. Si personne s'y met, on n'y arrivera jamais.
Deux solutions, les amis. Soit vous prenez une bonne douche froide, soit vous regardez un bon programme télé. Et pour ça, Eva Rock n'est jamais en manque d'idées.
Ah non, et puis on va commencer ce soir avec l'excellente idée d'M6, celle de diffuser à partir de 21h une série magnifique, This Is Us. La série, vous connaissez, hein, Mathieu, la série, elle s'ouvre sur un message. C'est un fait, d'après Wikipédia, 18 millions d'êtres humains sont nés le même jour. Rien ne prouve qu'être né le même jour crée un lien comportemental entre ces gens. S'il en existe un, Wikipédia ne l'a pas encore trouvé. Et alors, déboulent les premières images. On voit une femme obèse qui tente de ne pas ingurgiter seule son gâteau d'anniversaire. Un trader noir qui voit débouler dans son bureau son équipe avec des cadeaux. Et puis un comédien qui tente de fêter ce jour en compagnie de fans. Et puis, tous les trois donc célèbrent leurs 36 ans. Et puis il y a un couple, lui aussi à 36 ans. Sa femme est enceinte, elle est très très enceinte. Elle attend des triplés.
Joyeux 36e anniversaire. Joyeux 36e anniversaire. J'ai 3 bébés dans mon ventre. Et je suis un hippopotame.
Hé, la bande des trois. Vous vous êtes déjà rendu compte que j'aimais votre mère, mais vous ne pouvez pas encore savoir à quel point.
Si, on le sait. Maintenant, tais-toi, s'il te plaît, et laisse ta grosse femme dormir.
Non, non, non. Une tradition d'anniversaire est une tradition d'anniversaire. Allez, fermez les yeux, bouchez-vous les oreilles. Les enfants, papa va faire des choses pas très catholiques à maman.
Comment tu peux avoir envie de moi en ce moment?
Quelles que soient les circonstances, j'ai envie de te faire l'amour.
Je parie que je peux calmer tes ardeurs.
Rien ne m'empêchera.
Mais là, je suis en train de perdre les os.
On y va.
Voilà, alors évidemment, c'est les premières minutes de ce premier épisode. Tous ces personnages sont liés et c'est leur destin que vous allez découvrir. Des personnages qui sont cabossés par la vie et qui vont grandir et vieillir sous nos yeux. Il y a un va-et-vient dans le temps qui est particulièrement réussi, notamment grâce à une lumière qui est différente en fonction des périodes, comme des tons un peu jaunis quand l'action se déroule notamment dans les années 70. This Is Us, c'est surtout une fiction qui est extrêmement bien écrite. C'est un condensé d'humanité. C'est vraiment cette série qui vous en rend addict à ses héros, une série qui remue, qui bouleverse bouleverse, qui émeut. Sans doute, je pense, parce qu'elle touche quand même à notre propre enfance, à notre histoire et à celle de nos parents. Et c'est à voir ce soir à partir de 21h sur M6. Ne manquez pas cette série.
Moi qui vous fais passer pour une cougar sans cœur depuis des années, vous êtes en fait une véritable romantique, Eva.
Mais oui, et puis alors, je vais le rester, Mathieu, pour vous. Et pour ce deuxième choix du jour, un coup de cœur pour une autre série américaine qui vient de débuter sur OCS, qui est intitulée Run, court en français. Et Run, c'est le mot qui s'inscrit sur le portable de Ruby. C'est un mot qui sonne comme un signal. Dès qu'elle le voit apparaître sur son téléphone, eh bien, elle va se précipiter à l'aéroport, elle va prendre un vol pour New York, elle va filer jusqu'à la gare centrale et puis elle monte dans un train qui part pour Chicago. À son bord, il y a un homme, Bill, qui a fait exactement la même chose. 17 ans auparavant, ils s'étaient fait tous les deux une promesse. Si l'un d'entre eux envoyait le mot Run par SMS, alors ils quitteraient leur vie, se retrouveraient dans ce train et partiraient on ne sait où. Première réaction quand les deux anciens amoureux se retrouvent face à face.
Oh, fuck.
Bon, je ne traduis pas, Mathieu, hein. Fuck. Tout plaqué pour retrouver son amour de jeunesse et démarrer une nouvelle histoire, il n'y a rien de plus romantique. Alors, sauf qu'évidemment, il y a toujours un principe de réalité. Et dès les premières secondes, on sent que les 17 années passées vont quand même peser dans l'histoire de ces deux-là. Ce premier épisode est une merveille. Il y a un équilibre entre l'émotion et le comique qu'engendre évidemment la situation. C'est une série écrite et réalisée par Vicky Jones et produite par Phoebe Waller-Bridge. On doit à cette dernière une autre merveille, la série Fleabag. Mais courez découvrir Run, ça fait un bien fou, c'est sur OCS.
Et je tiens à vous adresser toutes mes félicitations, Eva, puisque dans cette chronique, vous avez réussi à dire This is Us sans vous planter,
vous
ainsi que Phoebe Waller-Bridge. Ouais, n'étais pas gagné quand on sait d'où vous venez.
Et Run aussi.
Oui,
voilà.
Oui, enfin Run, ouais. Ça quand même. Et le mix du jour, il ressemble à quoi le mix du jour?
Eh bien, avec Sébastien Bordonnat, vous vous propose un mix entre l'humoriste Christine. Ben voilà, je rip sur un mot français.
C'est les noms français. Voilà. Vous êtes forte en anglais, mais
c'est
en français,
c'est ça. Je peux pas les deux, ça, en même temps, c'est pas possible. On vous propose un mix entre l'humoriste Christelle Chollet, Christelle Chollet, qui a une recette pour la vie de couple en confinement, ça devrait vous intéresser, et Thomas Dutronc, qui chante et joue la javanaise, enfin qui essaye.
Pendant le confinement, les filles, un conseil, faites comme moi, instaurez le mariage à points. C'est comme le permis à points, vous donnez un capital de 12 points à votre mari, si vous saoulez, il perd des points, quand il n'a plus de points, il dégage. L'utilisation de son téléphone pendant qu'on fait l'amour, c'est 4 points en moins. Il n'a qu'à mettre son petit main libre.
La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour.
Mais attention, il peut récupérer des points en suivant des stages de sensibilisation à la gente féminine. Bien sûr, ce sont des stages payants qui ont lieu chez Vuitton et Cartier. Un sac Vuitton, je te récupère 3 points. Une bague Cartier, 6 points. Chérie, ça vient ce cocktail?
La vaut de vie d'être vécue. Alors, je vais me reprendre un café et je finirai ça plus tard.
Voilà, c'était Christelle Chollet et Thomas Dutronc dans notre mix du jour. Voilà.
Perfectionniste, mais pas trop.
Mais pas
trop.
Merci
Eva pour ce joli mix.
Europe 1.
Parmi les premières victimes du Covid-19, les obèses, les seniors et le Festival de Cannes. Que va-t-il se passer pour le plus célèbre festival de cinéma au monde? Oui, l'heure est proche où nous allons sortir la Lamborghini du garage.
Allez!
Mais attention à ne pas la brusquer, la Lambo. À froid, ce genre de mécanique peut avoir un peu de mal.
Je suis fatigué avant même de commencer, c'est pas possible.
Oh, ça promet. Mathieu Charrier arrive juste après The Doobie Brothers, Long Train Running sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Long Train Running, c'était The Doobie Brothers sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Même confinés, les journalistes d'Europe 1 continuent de se défier. Écoutez, l'équipe est sauvage, deux heures d'un joyeux pugilat entre les mercenaires de l'info et le dernier en lice n'est pas le moins pugnace, même s'il a ces derniers temps, surtout dans la matinale week-end, quelques légers retards à l'allumage, vous l'avez entendu. Mais contrairement au petit montage pernicieux que j'ai diffusé tout à l'heure, attention, je tiens quand même à rétablir la vérité, parfois Mathieu Charrier arrive quand même à terminer ses phrases.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
C'est une BD bourrée d'humour noir, côté graphisme, c'est un crayonné très fin, noir et blanc, des petites cases qui s'enchaînent, on est emporté par le tempo du dessin, c'est chez ça et la édition.
Yes.
Ah putain.
Dans quel état allons-nous le retrouver cet après-midi? Je ne vous cache pas, chers auditeurs, que c'est un saut dans l'inconnu. La forme, Mathieu Charrier?
Bah oui.
C'est un petit bain oui, c'est un petit bain oui, hein, oui.
Quand on pense, si les auditeurs savaient la taille de votre terrasse, vous devez passer des jolies journées en ce moment, en plein soleil,
c'est
mon salaud.
Possible.
Bon, alors, vous voulez que je vous parle de quelque chose de sérieux?
Mais oui, mais
vous
oui,
avez
bien
noté
sûr.
Qu'il non, ne dément pas. Vous nous parlez, parce que comme vous êtes au soleil sur votre terrasse, vous pensez à ça, vous pensez à la croisette, au Festival de Cannes, et vous vous dites, ben mince, cette année, je ne pourrais pas aller tout frais payé sur la croisette.
Exactement. Qui dit pas de festival jusqu'à au moins mi-juillet dit effectivement pas de Festival de Cannes, qui devait débuter normalement, vous le savez, mi-mai, comme d'habitude, d'abord reporté à fin juin, puis finalement donc se communiqué alambiqué mardi. Il apparaît désormais difficile de penser que le Festival de Cannes puisse être organisé cette année sous sa forme initiale, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais.
En résumé, les stars et les paillettes, on oublie, mais les organisateurs estiment que le festival, là encore je les recite, doit continuer à étudier l'ensemble des éventualités permettant d'accompagner l'année cinéma en faisant exister les films de Cannes 2020 d'une manière ou d'une autre. Vous n'y comprenez rien, je suis là pour ça.
Ah ouais. Expliquez-nous.
Alors, quelles sont les vraies pistes sur la table, Mathieu?
Alors, il y en a plusieurs. D'abord, vous savez qu'à Cannes, il y a le festival, mais il y a aussi toutes les sélections parallèles qui sont prestigieuses également. La quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique. Eux ont aussi officialisé l'annulation des festivals en tant que tels, mais ils laissent entendre qu'ils envisagent d'organiser leur sélection à Paris, à la rentrée, peut-être à l'automne également. Ça veut dire diffuser les films dans les salles parisiennes pour la presse, sans doute pour ces festivaliers, décerner aussi un palmarès qui permet bien sûr une couverture médiatique. Et puis surtout, vous savez, des beaux logos sur les affiches au moment des sorties des films, attirant ensuite les spectateurs dans les salles. Donc Cannes, la sélection officielle, pourrait se greffer sur cette organisation. Mais c'est vrai que ça veut dire diffuser des films dans des salles, pas de tapis rouge, pas de paillettes. Oui. Et Cannes, c'est aussi ça, ça perdrait un petit peu de sa superbe.
Et oui, comment ils vont faire pour maintenir le prestige dans ces conditions?
Alors, il y a une autre piste possible qu'évoque Thierry Frémaux ce matin dans le Figaro, organiser Cannes conjointement avec la Mostra de Venise. Vous savez, ça c'est tout début septembre. Alors, Venise se déroulerait à Venise, Cannes, il dit on pourrait monter les marches avec des masques sur le visage, c'est évidemment un trait d'humour, mais ça montre quand même l'image. Ça voudrait dire que les deux festivals sans doute bosseraient main dans la main. Alors, pourquoi pas avoir une sélection conjointe, chacun sa sélection, pourquoi pas aussi, mais ça serait compliqué parce que vous avez des journalistes qui devraient être des deux côtés,
au four et au moulin.
Vous avez, c'est ça, vous avez des films qui seraient projetés d'un côté, peut-être de l'autre, des stars, on ne sait même pas si elles pourront être là parce que je vous rappelle quand même que l'espace Schengen est fermé, donc pour faire venir les Américains, ça va être compliqué. Donc voilà, et puis c'est quand même deux festivals qui sont rivaux, entre guillemets, on a fait beaucoup le sujet ces dernières années, avec Venise qui essaie de retrouver sa superbe, qui essaie de prendre la place de Cannes, donc c'est pas certain qu'ils y arrivent. Et puis, il y a aussi, il ne faut pas se leurrer, Cannes, c'est aussi les stars qui font qu'il y a un grand rayonnement, que c'est le troisième événement le plus médiatisé au monde après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot.
Ah ouais.
Et je peux vous garantir que, connaissant les Américains comme on les connaît, ça m'étonnerait qu'ils mettent le pied en Europe avant plusieurs mois, qu'ils prennent le risque de venir choper le coronavirus. Donc, c'est vrai que ça s'annonce quand même compliqué.
Et question bête, Mathieu, mais pourquoi ne pas faire un festival en ligne, en projetant les films sur des plateformes sécurisées?
C'est ce qu'ils ont fait pour les festivals d'animation, de films d'animation qui ont été annulés récemment, là, d'ailleurs.
Annecy, notamment, effectivement, vous avez raison, qui va faire ça. Alors, Thierry Frémaux, le délégué de Cannes, a clairement dit qu'il était opposé. Pourquoi? D'abord parce que faut quand même pas oublier qu'il a lancé depuis quelques années une croisade contre Netflix en expliquant qu'il ne mettrait pas en compétition avec Cannes des films qui sortent pas sur des écrans de cinéma. Donc c'est compliqué ensuite de dire qu'on va juger les films en les regardant en dehors du cinéma. Et puis il y a quand même la problématique, faut pas l'oublier, du piratage. Comment être certain si ces films sont diffusés en ligne? Je vous rappelle que Cannes projette des films qui seront sortis dans les salles des mois après, souvent. Mmh. Donc si vous les diffusez en ligne, comment est-ce qu'ils vont pas être piratés et donc disponibles sur Internet avant leur sortie en salle? C'est hyper compliqué. En revanche, ce qui est vrai, c'est, vous savez, à Cannes, il y a ce qu'on appelle le marché du film, c'est-à-dire des producteurs, des distributeurs du monde entier qui s'y retrouvent pour acheter, pour vendre des films. Et ça, en revanche, ça va se passer sur Internet. Ça a aussi été officialisé en juin. Là, c'est concret. Mais ça ne concerne pas, évidemment, le public et la presse.
Dernière question, Mathieu. Est-ce que c'est déjà arrivé que Cannes soit annulé?
purement et simplement.
Alors oui et non. Non, en fait, le tout premier festival de Cannes, qui devait avoir lieu en 1939, il avait été annulé au dernier moment, évidemment en raison de la guerre. À l'époque d'ailleurs, c'était en septembre. C'est amusant de remarquer le parallèle. Vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait faire Cannes en septembre. À l'époque, c'était en septembre.
Ah, puis il y a une histoire de 68 aussi. Existe, ouais, pardon.
Ouais, voilà, ouais. Mais 68, non, mais 68, on dit souvent qu'il a été annulé. Il n'a pas été annulé, il a été interrompu. C'est-à-dire qu'il a commencé. Voilà, il y avait la colère à Paris, les révoltes, les usines occupées. Sur le tapis rouge de la croisette, vous aviez Orson Welles, Louis Malle, Roman Polanski, Sharon Tate qui étaient là. Bon, ça l'a foutu un peu mal. Le 18 mai, Claude Berry, François Truffaut, Jean-Luc Godard montent pied de grève à Cannes. Ils occupent les salles, il y a des bousculades. Et effectivement, la compétition s'arrête 6 jours plus tôt que prévu. Mais le festival avait quand même été lancé. Donc, hormis cet événement-là, c'est une première que le festival, depuis qu'il existe officiellement, si on laisse 1939 de côté, c'est une première que le festival ne se tienne pas aux dates prévues. C'est quand même, je trouve, symboliquement très fort.
Eh bien, merci Mathieu Charry pour cette chronique extrêmement complète et extrêmement bien dite surtout. Et c'était pas gagné quand on sait votre forme ces derniers jours.
Une idée
pour votre prochain thème de chronique.
Le communisme comme agent de la décadence française.
Ça c'est bien dans l'actu ça. Merci.
Europe 1.
Dans l'histoire de l'équipe sauvage, il y aura eu des invités sympas, des invités formidables, et puis il y aura eu encore mieux, Pierre Hardy.
Voilà.
2 heures de rire explosif, souvent hélas à nos dépens, son dernier mot ayant été...
Ah là 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 là, dis donc, putain, vous êtes bien payé pour ce que vous faites, je vous le dis franchement. Hein.
Le meilleur de notre après-midi avec Pierre Hardy, qui à suivre.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe sauvage. L'équipe sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'équipe sauvage confinée en duplex de mon canapé a peut-être son charme, du moins on l'espère. Mais ce qui nous manque avec Eva, c'est le plaisir, chaque fois renouvelé, chaque fois différent, d'accueillir à bras ouverts un invité qui souvent nous épatait par sa générosité, sa gentillesse, comme Pierre Arditi le 3 octobre dernier. Pierre, à qui je m'étais permis durant une coupure pub de parler de la sublime pièce de théâtre que j'avais écrite et qui m'a répondu ces mots que je n'oublierai jamais. Pierre, vous aurez le temps de lire ma pièce, c'est une vraie pièce que j'ai écrite.
Plutôt crever la gueule ouverte dans un terrain vague avec un vieux bout de saumon fumé.
D'accord, c'est cadeau. On se réécoute le meilleur de Pierre Arditi dans l'équipe sauvage. C'était donc le 3 octobre dernier. Aujourd'hui, c'est avec une émotion non feinte que nous accueillons un des plus grands comédiens français. Je l'aime énormément.
Oui, mais enfin, toi, tu m'aimes comme un ami.
Bah oui, alors.
Alors que moi, je t'aime physiquement.
Bien, mesdames et messieurs, Pierre Arditi. Bonjour, Pierre.
C'est consternant. C'est déjà consternant. C'est horrible. Cette radio est en chute libre. Voilà, c'est la fin, c'est les derniers instants. Profitez-en, ça ne va plus durer très longtemps, l'Europe numéro 1.
Moi qui allais commencer par une flatterie. C'est simple, il n'y a pas de rentrée théâtrale réussie sans vous, Pierre Arditi. Peut-être que je vais changer mon début. C'est la musique des Molières, vous l'avez reconnu. Combien de Molières, Pierre ?
Alors, combien de Molières ? 1.
Combien de César ?
Comme meilleur acteur dans un second rôle. Moi qui ai passé ma vie, à jouer au théâtre, j'ai été nommé un certain nombre de fois, mais tout le monde pense que j'en ai eu 25 et je n'ai jamais eu le Molière du meilleur acteur, mais je ne le mérite sans doute pas. Oh. Donc ça m'est complètement égal. C'est pas grave, ça m'a fait plaisir quand j'ai eu le premier Molière d'histoire des Molières, puisque le Molière du meilleur acteur dans un second rôle était le premier Molière remis à l'époque en 1986 ou 7, je crois. Combien de César ? 2.
Ah bah, c'est pas mal.
Oui, un comme meilleur acteur dans un second rôle et un comme meilleur acteur tout court.
Ah, meilleur acteur tout court. J'ai pas envie d'être trop flagorneur avec vous, Pierre, d'autant que vous passez votre temps à nous tacler, mais c'est vrai que vous êtes quand même un acteur assez phénoménal dans le sens où vous êtes toujours bon, vous êtes toujours excellent dans n'importe quelle pièce, en fait, quel que soit le texte, vous êtes incroyable. Si, Pierre. Voilà, voilà. Pas de fausse modestie. Est-ce que vous avez toujours le trac après 50 ans de carrière, au moment d'entrer en scène? Ou est-ce que vous savez que...
C'est pas pareil. Quand j'étais très jeune et que je commençais, je tenais pas sur mes cannes. Et je me disais, mais tout le monde va le voir, ça faisait ça. Mais je me tremblais comme ça. Je me disais, mais ça va être épouvantable. Bon, même si on va me balancer les tomates pour que je sorte de scène immédiatement, tout le monde doit voir que je tremble. Personne ne le voyait, évidemment. Il n'y a que moi qui n'y a pas. Donc j'avais peur que les gens, dès que j'étais rentré en scène, me sifflent parce qu'ils vont me dire qu'est-ce que fait ce connard. Laza, il faut qu'il sorte. Bon, 55 ans plus tard, car c'est exactement ça, 55 ans, honnêtement, pas de fausse modestie. Les gens viennent aussi pour me voir. Ah, oui, peut-être parfois même, c'est sûr. D'abord. Et donc, je ne peux pas dire, oh, bon, écoutez, non, j'ai peur qu'on me cite. Non, voilà. Donc maintenant, c'est autre chose. Maintenant, j'ai peur, moi, de ne pas être au niveau de ce que les gens ont pu rêver de voir. Il y a une très belle phrase de Michel Bouquet qui dit, n'oubliez jamais que le public ne vient pas pour vous voir jouer, il vient pour jouer avec vous. Mmh. Eh bien, voilà. J'espère arriver à jouer avec eux.
Pierre Arditi, vous avez joué dans une série qui s'intitule Le sang de la vigne, et c'est pas un hasard, le vin, c'est vraiment une des passions de votre vie.
Oui, tardive d'ailleurs, parce que... Oui, j'aime le vin, oui, j'aime ça.
Comment vous avez découvert comment on devient passionné de vin, un jour ?
Je sais pas comment on devient passionné de vin. Ça ne vient pas de mes parents, qui, eux, buvaient du vinaigre. Quand j'en ai bu un tout petit peu, je me suis dit, si c'est ça le vin, j'en boirai jamais, parce que c'est épouvantable. Et puis, j'ai fait mes débuts d'acteur à Lyon, et là, évidemment, on m'a fait goûter des choses très simples, d'ailleurs. De très bons Beaujolais, des pots de Côte, du Rhône, des pots de Beaujolais, très simplement faits, mais délicieux, ce qu'on appelle des vins de soif, et j'ai commencé à adorer ça. Voilà. Et
puis vous n'avez pas que des vins de soif dans votre cave, paraît-il, d'après les indiscrétions que j'ai pu avoir.
C'est toujours du vin de soif, mais quelquefois, évidemment, c'est un petit peu autre chose, bien sûr, mais c'est normal.
Olivier Pouls, vrai connaisseur, Pierre Arditi ?
Oui, et je peux en témoigner. On a quelquefois échangé ensemble autour de bonnes bouteilles. Il connaît très bien le vin, il connaît très bien les vignerons, et il aime les vignerons. Et je pense que ça, c'est très important de la part d'un amateur de vin, c'est de comprendre d'où ça vient.
Mais oui, je les aime bien parce que je les admire.
On me crie dans la régie de dire rappel avec modération. Vous n'aimez pas le mot modération. Vous avez un autre mot, oui, vous préférez raison. Avec raison.
Oui, raison. Oui, parce que la modération, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un homme modéré. C'est pas intéressant de vivre avec modération. Par contre, la raison, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que j'aime le vin passionnément, mais le vin est un ami, il peut devenir un ennemi. Je suis contre l'addiction à l'alcool, bien entendu, mais je crois à la culture de l'initiation. Et donc, à un moment donné, pour en avoir fait moi-même l'expérience, d'une manière assez marrante d'ailleurs, quand je suis venu jouer à Saint-Étienne, Don Juan, il y a de nombreuses années, quand j'étais jeune et pas vilain, j'avais fait une dégustation chez mes amis Guigal de côte rôtie. Je m'étais dit quand même ça, je peux pas cracher. Je suis arrivé, j'étais ivre mort, et j'ai joué donc Don Juan en Bulgare, au grand étonnement du public nombreux qui était dans la salle et qui n'a pas bien compris pourquoi subitement je parlais une langue étrangère. Bon, voilà. Donc si vous voulez, à un moment donné, je ne laisse pas au vin le droit de prendre ma place.
Europe 1.
À suivre, lui aussi avait fait partie des victimes collatérales de la tornade Arditi, car il n'y a pas que ma pièce que Pierre avait trouvée pourrie, la recette de Pouls aussi.
Bonjour Pierre Arditi.
Comment ça va?
Ah ben ça
Olivier.
Va bien. J'ai apporté des gratons.
Je n'y toucherai pas. Voilà, tu peux te les.
Tu peux te les. Olivier Pouls arrive avec votre recette de dernière minute, délice in extremis, juste après Coldplay, Orphans sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Orphan, c'était Coldplay sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui stimule vos neurones, chatouille vos zygomatiques et réveille même vos papilles. Grâce à celui pour qui la gastronomie n'est plus, avouons-le, qu'un hobby, une marotte, depuis que le monde du hip-hop l'a consacré révélation belge de l'année. Un succès qui d'ailleurs trouble la tranquillité du village bourguignon où il vit, sachant qu'il va désormais chercher le pain en Hummer doré en criant par la fenêtre.
Snoop Doggy Bag.
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis. Mais révélation belge, je trouve ça un peu réducteur. Révélation tout court m'irait bien.
Révélation
ah oui,
mondiale.
Bien sûr.
Mon cher Olivier, vous restez quand même un chef épatant et tous les jours vous nous proposez un voyage culinaire. Cette semaine, là, quelque chose est tombé à côté
oui,
de vous.
Vous êtes entier ou tout va bien?
Non, tout va bien. C'est la porte du Hummer que j'ai claqué un peu violemment.
Alors, Olivier, qu'est-ce qu'on trouve dans votre casserole aujourd'hui?
Je vous avais proposé, en tout cas aux auditeurs, de nous suggérer une destination pour aujourd'hui. Et c'est le Maroc qui est venu en tête, visiblement.
Voilà.
Que beaucoup de nos auditeurs aimeraient être confinés dans un riad de Marrakech avec piscine et palmeraie. Bon, malheureusement, c'est pas le cas, mais on va quand même voyager avec ces petites briques. C'est un plat assez facile à faire, goûteux et qui fait voyager pour le coup. Alors, de la feuille de brique, ça se trouve assez facilement, même en temps de confinement.
Oui. Alors, moi, j'en ai trouvé au supermarché l'autre jour.
Oui, oui.
Alors, c'est dire que c'est facile. Mais alors, on va voir tout à l'heure si vous êtes aussi fort que ça avec les briques, parce que il y a la feuille de brique évidemment, puis on va faire la farce. Alors, une farce assez simple, là aussi, avec des produits qu'on peut trouver, des produits du tout venant, de la viande hachée par exemple, des oignons, du concentré de tomate, surtout beaucoup d'épices. Alors là, je ne sais pas ce que vous avez dans votre placard. Je sais, mon cher Mathieu, que vous avez une armoire à épices particulièrement bien garnie.
Ah, c'est bien étoffé, effectivement, je dois dire.
Oui, ouais, alors est-ce que vous auriez un peu de raselle à nout, un peu de cumin, un peu de cannelle, par exemple.
Oui,
vous avez tout
j'ai
ça.
Tout ça.
Bon,
oui.
Ben, vous allez détailler votre oignon en petits morceaux, un petit peu de matière grasse, on le fait revenir, on rajoute une ou deux petites cuillères à soupe d'eau et on laisse compoter l'oignon. On va rajouter ensuite la viande, les épices, un peu de concentré de tomate. Il faut vraiment laisser compoter tout ça pendant 15-20 minutes de manière à avoir une farce très sèche. Parce que c'est ce qui va permettre de garder le croustillant de notre feuille de brique. Ensuite, on va prendre les feuilles de brique. Et c'est là que c'est un petit peu technique, mon cher Mathieu. Mmh. Est-ce que vous savez comment on les plie? Parce que c'est ça tout l'enjeu quand on veut faire des briques qui ressemblent à quelque chose. Vous savez, c'est ce pliage en triangle, une espèce d'origami marocain. Est-ce que vous savez le faire?
Eh bien, vous savez quoi, mon cher Pouls? Je vais vous surprendre, mais oui, je sais le faire. Depuis la semaine dernière, j'ai appris.
Tuto sur Internet ou...
Tuto à domicile.
Ouais.
Et c'est pas si compliqué une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait le triangle.
Non, alors c'est à expliquer à la radio, je pense que
c'est
là pour le coup, c'est très
impossible.
Compliqué.
Il faut aller voir un petit tuto, j'imagine qu'il y en a sur Internet.
Il y en a plein,
bien sûr, il y en a plein. Donc allez
et
voir un petit
tuto. C'est pas très compliqué, c'est bien fait. Quoi. Ensuite, on n'oublie pas. Quoi.
Voilà notre feuille de brique. Donc on va regarder le petit tuto de manière formée, ces jolis petits triangle. Petit triangle qu'on fait ensuite revenir dans de l'huile, donc une poêle assez chaude, une belle quantité d'huile, une cuisson 2 minutes de chaque côté de manière à les faire bien dorer, bien croustiller. Et alors ça, c'est délicieux. Alors soit à l'apéro, soit en plat avec une petite salade et en fermant les yeux. Mais ma foi, je suis au Maroc.
C'est vrai. Je valide complètement.
On est déjà au Maroc et ça nous rappelle cette belle émission avec le comte de Bouderbala,
oui.
À qui vous aviez qui était algérien et à qui vous avez proposé évidemment
un tagine
de son pays, plein de Marocains comme chacun sait. Merci Sidi Pouls pour cette aventure marocaine. On se retrouve demain et samedi évidemment dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Absolument.
Europe 1.
Allez, courage les amis, on va bientôt pouvoir cocher un 31e jour. Alors bien sûr, le déconfinement est encore loin, encore un mois à tenir, mais songeons à l'après, ce merveilleux jour de mai où on se retrouvera.
Ah, faisons l'amour comme des bêtes affolées par les feux de la cymbale.
Ouais, non, attention, hein, Macron a dit par phase le déconfinement. Il va falloir y aller mollo quand même sur les contacts. Hein.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Une 31e édition confinée de l'équipe est sauvage s'achève. Face à moi, 4 journalistes exceptionnels, 4 spécimens uniques que je résumerai ainsi.
L'aristocratie de Westminster, la robustesse de Besançon, la finition suisse, le chic parisien.
Qui sera élu chroniqueur du jour? On ne sait pas qui est qui. C'est l'heure, c'est l'heure du qui tout double. Ils ont chacun 10 secondes pour plaider leur dossier. Mathieu Charrier, pourquoi devrions-nous voter pour vous cet après-midi?
Écoutez, plus de festivals de cinéma, plus de sorties en salle de films au cinéma, ça veut dire plus de journalistes cinéma, sauf si vous votez pour moi et que vous prouvez mon intérêt et ma place dans cette émission.
C'est vrai.
Ah, carrément.
Mais bon, oui, c'est vrai, c'est pas bête.
Du poids dans l'industrie cinématographique. Fred Goati, pourquoi voter pour vous?
Tout pour la musique, avec un tout petit supplément d'âme, je ne sais pas. Mais si Eva si, si Mathieu si, si vous pouviez voter pour moi, et Romain aussi.
Ils sont vraiment prêts à tout, jusqu'à l'humiliation pour décrocher leurs points. Merci Fred Goati. Farah Kasri, pourquoi voter pour vous?
Bon, je sais très bien qu'on ne peut pas forcément se réjouir de ce côté écolo du virus. Il y a un petit peu trop de dégâts collatéraux. Mmh. Mais je vous ai quand même donné une raison supplémentaire pour apprécier le confinement, le fameux baby-boom des flamants roses.
C'est vrai.
Le baby-boom des flamants roses, effectivement. Beau sujet. Stéphane
Vous
Plas,
dit
l'amateur.
Le baby-boom.
J'ai dit le baby-boom qui est le fils de Danny Boone. C'est un autre sujet que nous traiterons la semaine prochaine. Stéphane Plas, le roi du barbecue. Pourquoi voter pour vous?
D'abord parce que là, en l'occurrence, le sujet que je vous ai proposé, il fait appel à l'ingéniosité. C'est pas la moindre des qualités dans une période de confinement. Arriver à organiser des tournois de molki à distance, il faut quand même avoir et de la volonté, de la passion et de l'ingéniosité. J'insiste là-dessus. Il y a une confiance parce que vous faites une partie d'un jeu où, en principe, on regarde quand même un peu ce que vient de réussir son adversaire. Bah là, on le voit pas très directement. L'un est dans son couloir, l'autre peut être plus loin dans son jardin, des centaines de kilomètres. C'est en train de très bien fonctionner grâce à cette initiative. Il y a même des joueurs australiens, belges.
Stéphane, vous n'avez pas le droit de refaire votre chronique.
Non, mais j'ai pas l'argument de Mathieu Charrier qui est de jouer la survie de l'espèce. J'ai pas osé. Donc, je suis bien obligé de développer des vrais arguments. Et enfin, dernière chose, c'est le Danemark qui a réussi quand même à avoir des proverbes magnifiques. Vous savez qu'en danois, par exemple, on dit toute chose à une fin,
c'est l'heure du
sauf
journal,
le saucisson qui en a deux.
Oh là là, ça y est, c'est parti.
Et voilà, vous m'avez coupé de toute façon, donc ça ne vous intéresse pas en fait le Danemark,
c'est,
Mathieu.
C'est, moi, ça m'intéresse, mais c'est Mathieu Charrier qui est mauvais perdant.
Il n'y a rien qui vous intéresse, Mathieu.
On va les laisser s'entretuer,
ils
Eva.
Sont fous, hein, ils sont
en ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui à Fred Goati qui a réussi à me faire découvrir des chansons de Michel Berger que je ne connaissais pas alors que je suis pourtant assez fan. Eva Rock, pour qui votez-vous?
Je sais pas.
Ah, c'est dur.
Pour Fred Goati aussi. Parce que ça m'a trop donné envie de rechanter France Gall, tout ça, comme je fais parfois.
Par contre, beaucoup de demandes de ce côté-là, chanter France Gall, mais bien seul chez vous.
Évidemment.
Et le batteur niçois,
exactement.
Causeur, notre réalisateur, a lui aussi un point à distribuer. À qui l'offrez-vous aujourd'hui, Romain?
Mathieu, aujourd'hui, même s'il n'a pas parlé de Bergerac, je vais voter pour Stéphane Plas.
Je peux voter sur Romain toujours.
Un vote local, quoi, Romain est de la même région que Stéphane. Et là, dévoilons enfin le choix de nos auditeurs.
Et pour Stéphane Plas, figurez-vous, c'était très serré, mais c'est Stéphane Plas qui gagne aussi.
C'est Stéphane Plas qui remporte la 156e journée
de l'équipe
Sauvage.
Exploser les timings, il n'y a pas de souci.
Bien sûr.
C'est ça, quoi.
Déposerez. Une nouvelle fois, les règles sont bafouées.
Mathieu Charrier, vous déposerez.
J'ai fait du molki à l'échelle de l'émission. Moi, j'ai balancé le molki et j'ai renversé les quilles.
Il a tout renversé. Mathieu Charrier déposera une motion qui sera étudiée après le confinement. C'était la 156e journée de l'équipée sauvage. Je remercie mes confinés du jour, Eva Rock, Farah Kasri, Stéphane Plas, Mathieu Charrier, Fred Goati et Olivier Pouls, Romain Causeur et Rémi Duprat en régie. Et bien sûr, mes télétravailleurs de l'ombre, Philippe Armardet, Claire Dutron, Oriane Alévi et Sébastien Bordenave. L'équipée sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.